Vous écoutez Radio France Internationale, il est 4h ici à Paris, 2h en temps universel, 5h à Damas.
Gali Bonin.
À la une de l'actualité, après avoir refusé de s'impliquer depuis la chute de Bachar al-Assad, Donald Trump s'invite dans le dossier syrien. Il propose une médiation américaine entre Israël et la Turquie pour un équilibre dans la région. Les bourses asiatiques ouvrent en baisse, symptôme de l'incertitude mondiale provoquée par la guerre commerciale menée par Washington. Le dollar américain continue de plonger face à l'euro. Quel impact aura la suspension des droits de douane américains sur l'économie ivoirienne? Vous entendrez le ministre de l'économie dans ce journal. Et en France, l'entreprise Vencorex, rachetée par son concurrent chinois, LFI, accuse le gouvernement d'avoir abandonné un fleuron de l'industrie chimique française. Ce sera sa deuxième visite en Turquie en un peu plus de 2 mois. Ahmed al-Shara, le nouveau président syrien, doit se rendre à Antalya vendredi pour participer à un forum diplomatique. Les liens continuent de se resserrer entre Damas et Ankara, qui cherchent à renforcer sa présence militaire en Syrie. Des ambitions vues par Israël comme une menace pour sa sécurité. Cette semaine, Donald Trump s'est dit prêt à servir de médiateur entre Ankara et Tel Aviv, une offre qui marque un engagement de l'administration Trump dans le dossier syrien dont elle était restée distante. Guilhem Delteil.
C'était le 7 décembre dernier, à quelques heures de la fuite de Bachar al-Assad de Damas. Alors président élu, Donald Trump écrivait sur les réseaux sociaux « La Syrie est un désastre, mais elle n'est pas notre amie. Les États-Unis ne devraient rien avoir à faire avec ce pays ». Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a pas retiré les troupes américaines présentes en Syrie au nom de la lutte contre le terrorisme, mais il n'avait pas fait du pays une de ses priorités. Une distance qui a fait le jeu des principales puissances militaires de la région, la Turquie et Israël, avec un engagement américain assez faible, les deux pays ont pu agir en Syrie. Ankara, en cherchant à prendre l'espace laissé par l'Iran et la Russie, soutient du régime Assad. Israël, en bombardant des sites pour empêcher tout renforcement militaire du nouveau régime syrien et occupant une partie plus large du territoire de son voisin. Mais les intérêts des deux pays sont opposés et le bras de fer, pour l'instant contenu, pourrait conduire à une escalade. Donald Trump a donc proposé une médiation entre le président turc et le premier ministre israélien, avec lesquels il revendique une proximité. Mais sera-t-il un médiateur neutre? Lundi, il a apporté un soutien à Recep Tayyip Erdogan et demandé à Benjamin Netanyahou d'être raisonnable.
Les précisions de Guilhem Delteil, la Syrie qui tente d'établir sa légitimité à l'international. Dernière avancée en date, la normalisation des relations avec la Corée du Sud. Un accord vient d'être signé entre Séoul et Damas pour établir des liens diplomatiques entre les deux pays. Échange de mise en garde entre les États-Unis et l'Iran avant un sommet prévu à Oman. Téhéran a averti que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique pourraient être expulsés si les menaces extérieures se poursuivaient. Attaque indirecte contre Washington, qui a répondu qu'une expulsion serait une escalade et un mauvais calcul de la part de Téhéran. Des discussions inédites doivent avoir lieu samedi entre des représentants des deux pays pour faire avancer le dossier du nucléaire iranien. Et c'était une journée faste pour les rapprochements entre la Russie et les États-Unis. Jeudi, des diplomates russes et américains étaient réunis à Istanbul pour une nouvelle série de pourparlers bilatéraux. À l'ordre du jour, les opérations de leurs ambassades respectives. Aucune discussion sur l'Ukraine ou sur les tarifs douaniers. Il n'a été question que du fonctionnement de leur corps diplomatique. Au même moment, à Abu Dhabi, les deux pays ont procédé à un échange de prisonniers. Une russo-américaine a été libérée en échange d'un russe accusé d'avoir financé illégalement la guerre en Ukraine. La saignée continue sur les principales places boursières mondiales. Malgré la suspension des droits de douane américains, le climat d'incertitude continue de perturber les investisseurs. En Asie, les marchés financiers ouvrent en forte baisse. À New York, les indices phares de Wall Street ont terminé dans le rouge. Le dollar est aussi en chute libre face à l'euro, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Donald Trump, lui qui promet de réindustrialiser les États-Unis. Sauf que le président américain est peut-être allé trop loin, comme l'explique l'économiste Pierre Scheffler.
Quelque part, son objectif à terme, c'est que le dollar soit plus faible. Un dollar plus faible, c'est rendre l'économie américaine plus compétitive, c'est-à-dire les biens américains moins chers à l'export. Parce que de cette façon, il espère qu'on va produire aux États-Unis, de telle sorte que les États-Unis se mettent à exporter plus de biens à partir d'une production locale. Le problème qu'il a, là, il est en train de faire perdre la crédibilité du dollar comme monnaie de réserve des banques centrales mondiales. Donc, il a surtout créé une panique généralisée, parce que maintenant, plus personne ne comprend très bien ce qui va se passer. Et du coup, l'objectif de réindustrialiser les États-Unis, qui est l'objectif ultime, est pour le moment mis en stop, puisque aucune entreprise n'est prête à s'engager pour lancer des usines aux États-Unis sur un horizon de 5 ans ou 10 ans, où on a besoin de stabilité et de visibilité dans la politique économique.
L'économiste Pierre Scheffler et l'annonce de la suspension des droits de douane qui a été bien reçue en Europe. Bruxelles suspend ses contre-tarifs pour 90 jours. Une pause qui donnera le temps de négocier, estime la présidente de la commission Ursula von der Leyen. Vu d'Abidjan, ce répit de 3 mois est sans doute une occasion d'épargner les pays du continent africain. Le ministre ivoirien de l'agriculture semble assez serein. Bénin Kouassi Adjoumani au micro de Binetta Diagne.
Ce sont les consommateurs qui vont en subir les conséquences. Parce que lorsque vous taxez notre produit que nous exportons dans votre pays, mais nous aussi, nous allons augmenter le prix du cacao. Et cela va avoir une répercussion sur le prix aux consommateurs. Donc, nous ne perdons pas. Si vous mettez 21% de taxes, mais nous allons augmenter notre produit de 30%. Et c'est le consommateur final qui va s'en trouver lésé. Donc je crois que c'est une mesure qui est impopulaire et nous demandons aux États-Unis de revoir sa copie.
Le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, notait que les exportations vers les États-Unis représentent 4% des échanges commerciaux. La Côte d'Ivoire y exporte principalement du cacao. En Israël, l'armée va renvoyer tous les militaires qui ont publiquement dénoncé la poursuite de la guerre à Gaza. Dans une lettre signée par près de 1000 réservistes, des pilotes et aviateurs demandent la libération des otages, même si cela signifie arrêter les combats contre le Hamas. C'est une protestation de taille au sein des rangs israéliens. Cette demande va à l'encontre de la position du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui assure qu'une pression militaire accrue sur Gaza est le seul moyen de libérer les otages. Étape importante ou coup de pouce pour le Hamas, la possibilité pour la France de reconnaître l'État palestinien divise dans la région. Mercredi, le président Emmanuel Macron a laissé entendre que Paris pourrait le faire en juin, à l'occasion d'une conférence co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite aux Nations Unies à New York. Une proposition chaleureusement accueillie par le Hamas et des ministres palestiniens. Mais à Tel Aviv, le gouvernement a dénoncé une décision qui serait une récompense pour le terrorisme. Après des mois de tensions entre le Panama et les États-Unis, le pays d'Amérique centrale annonce autoriser le déploiement de soldats américains à proximité du canal. L'accord bilatéral publié jeudi donne accès à des zones spécifiques pour des entraînements, des activités humanitaires et des exercices. L'entente exclut toutefois la possibilité d'établir des bases militaires. Cette annonce survient après les ambitions américaines affichées et répétées de reprendre possession du canal de Panama. En France, la reprise de l'usine Vencorex Fleuron de la Chimie près de Grenoble a été attribuée jeudi à son concurrent chinois Wanhua. Il ne gardera qu'une fraction de l'activité et des salariés. Le tribunal de commerce de Lyon a jugé irrecevable un projet de reprise en coopérative par des salariés. Il aurait permis de sauvegarder davantage de postes et dans la classe politique, la France insoumise accuse le gouvernement de ne pas avoir fait assez pour sauver l'entreprise. La députée Aurélie Trouvé au micro de Victorien Villaume.
C'est une terrible nouvelle qui montre à quel point le président Macron, ses gouvernements sont d'une impuissance totale face à un désastre industriel. C'est une perte de souveraineté terrible. Ça contrevient totalement au dire du président Macron qui dit qu'il faut une dissuasion nucléaire 100% française de bout en bout puisque Vencorex produit du sel et du chlore pour à la fois les fusées Ariane et les missiles nucléaires. C'est 5000 emplois qui sont menacés indirectement et très directement 400 emplois. C'est une grande plateforme chimique qui est aujourd'hui totalement ébranlée. Je le dis, c'est une catastrophe.
La réaction de la députée insoumise Aurélie Trouvé qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.